Chapitre 33. Richard eut une quinte de toux. La douleur dans ses poumons le ramena à la conscience. Aussitôt, il eut le réflexe de gémir, mais aucun air ne vint faire vibrer ses cordes vocales. Il étouffait comme s'il était en train de se noyer. Il toussa de nouveau, grimaça de douleur et se recroquevilla sur lui-même, les mains pressées sur le torse pour bloquer le réflexe absurde qui le mettait à la torture.
« Respire !»
Pour le sourcier, la voix qui venait de résonner dans sa tête était celle de la folie. Bon sang, il faisait tout son possible pour ne pas tousser afin de s'épargner une abominable souffrance. Et cette voix
« Respire !»
Richard ne savait pas où il était. Pour le moment, il s'en fichait royalement. Une seule chose comptait, la sensation d'étouffer. Il avait besoin d'air, mais il refusait d'en inhaler. Ce conflit intérieur déchirant occultait tout le reste, et face à une telle torture, la mort semblait préférable. Oui, plutôt mourir que continuer à subir ce calvaire. Richard ne bougeait pas, car avec chaque mouvement qu'il économisait, ne pas respirer devenait plus facile. S'il parvenait à garder le cap, la douleur finirait par cesser, il le sentait. La clé était de rester étendu, inerte comme une statue, en espérant que le monde cesserait de tourner autour de lui avant de l'avoir contraint à vomir. S'il devait vider son estomac, l'expérience serait atroce, il n'en doutait pas. S'il serrait les dents et attendait que ça passe, il irait bientôt beaucoup mieux.
« Respire !»
Richard ignora l'injonction de la voix mélodieuse qui se faisait de plus en plus lointaine. « Avait-il déjà autant souffert ?» se demanda-t-il. « Oui, dans un passé assez récent. » Lorsque Dena le suspendait au plafond avec des chaînes et le torturait jusqu'à ce qu'il en oublie son propre nom. La mort de Sith lui avait en même temps appris à supporter la douleur. Il la revit, debout devant lui, tentant d'évaluer son état, parfois inquiète de le voir si proche de la mort. En plus d'une occasion, à cette époque, Richard avait failli franchir le voile pour passer dans le royaume des morts. À ces moments-là, Dena lui plaquait ses lèvres sur la bouche et lui faisait don du souffle de la vie. Contrainte par Darkenral de garder le prisonnier en vie, la mort de Sith l'avait privé du droit de mourir. Entre ses mains, il avait été dépouillé de tout, lui appartenant corps et âme jusque dans la mort. Et voilà qu'elle se campait de nouveau devant lui. Son visage d'argent à quelques pouces du sien, comme si elle allait encore lui dénier le droit de mourir.
« Respire !»
Richard sursauta. Quelque chose n'allait pas. Dena n'avait jamais eu un visage de vif argent.
« Tu dois respirer !»
dit la voix, mais plus dans sa tête à présent.
« Sinon, tu mourras !»
La créature de vif argent était d'une incroyable beauté, constata Richard. Pour lui faire plaisir, il tenta d'inhaler un peu d'air.
« Ça fait mal !»
gémit-il comme un tout petit garçon.
« Peut-être, mais tu dois continuer, c'est la source de la vie !»
Certes, mais Richard voulait-il vivre? Quand on était épuisé comme lui, la mort avait son attrait. Plus de combat, plus de souffrance, ni de désespoir. Adieu les larmes, la solitude et l'absence de Callan qui le tuait chaque jour à petit feu.
Callan. Respire.
S'il quittait ce monde, qui viendrait au secours de sa femme? Richard prit une inspiration plus profonde, et tant pis s'il eut le sentiment que ses poumons explosaient. Au lieu de songer à la douleur, il imagina le sourire de sa bien-aimée. Encore une inspiration presque totale, celle-là. Une main de vif argent se glissa dans son dos comme pour le soutenir alors qu'il luttait contre la mort. L'étrange visage exprimait une mélancolique compassion face à son combat.
« Respire !»
Richard fit signe qu'il avait compris. Les poings serrés, il inhala un peu plus d'air. Toussant de nouveau, il cracha un peu de sang et des humeurs au goût vaguement métallique. À chaque inspiration, il gagnait un peu plus de force pour expulser le liquide qui lui brûlait les poumons. Un long moment, il resta couché sur le côté, alternant les inspirations et les expectorations. Lorsqu'il respira de nouveau normalement, ou presque, il se tourna sur le dos, espérant apaiser ses vertiges. Pour accélérer le processus, il ferma les yeux, Mais ce fut une erreur car la sensation de tournis augmenta. Par miracle, il parvint à ne pas vomir. Rouvrant les yeux, il contempla la frondaison juste au-dessus de lui. Bien qu'il fasse nuit, il reconnut aisément des érables à la forme unique de leurs feuilles. Contempler des végétaux, ses compagnons de toujours lui faisant du bien, Richard décida d'identifier tous les arbres qu'il distinguait. Le feuillage en forme de cœur devait appartenir à un tilleul. Les branches massives qui le dominaient, elles, étaient certainement celles d'un grand pin blanc. Un peu plus loin, sur un côté, on apercevait un bosquet de chênes qui voisinait avec des sapins baumiers et quelques épicéas. Mais tout autour de lui, cependant, il y avait surtout des érables. Et quelques peupliers sans doute, car il entendait le bruissement caractéristique de leurs feuilles lorsque la brise les caressait. En plus de sa détresse respiratoire qui s'améliorait très lentement, Richard sentait que quelque chose n'allait pas du tout en lui. Il ne s'agissait pas d'une blessure, au sens classique du terme, mais plutôt d'un manque, ou d'un dysfonctionnement fondamental. Dès qu'il tentait d'affiner sa perception, la vérité lui glissait entre les doigts comme une anguille. Il y avait en lui un vide dénué de lien avec les émotions légitimes que lui inspirait sa vie, comme le désir de trouver Callan ou la volonté de déchaîner les foudres de son armée au cœur même de l'Ancien Monde. Y avait-il un rapport avec les troublantes révélations de Shota? Non, ce n'était pas ça non plus. Le mot « vide » restait la meilleure façon d'exprimer ce sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé de sa vie. Puisqu'il était inédit, comment l'identifier? Et de quelle manière définir exactement la nature de la composante de sa personne qui s'était volatilisée? Une partie de lui-même dont il n'avait jamais vraiment eu conscience avant qu'elle lui fasse défaut. Privé de ce mystérieux viatique, il avait l'impression d'être quelqu'un d'autre. Sans qu'il sache pourquoi, l'histoire que Shota lui avait racontée sur Barakus et son livre intitulé « Les secrets du pouvoir d'un sorcier de guerre » lui revint à l'esprit. Parce que cet ouvrage aurait pu l'aider dans la curieuse situation où il se trouvait? Sans doute, puisque le problème, il devait l'admettre, était lié à son don. Penser à la voyante lui rappela une stupéfiante révélation au sujet de sa mère, censée ne pas être morte seule dans l'incendie. Pourtant, Zed avait fouillé lui-même ce qui restait de la maison, et il affirmait ne pas avoir découvert d'autres ossements que ceux de sa fille. Comment était-ce possible? Quand deux personnes affirmaient des choses contradictoires, l'une des deux se trompait. En règle générale, oui. Dans le cas présent, la vérité semblait plus compliquée que ça. Richard aurait juré que la réponse était cachée quelque part dans un coin de sa tête. Mais il ne parvenait pas à la débusquer. Comme cela lui arrivait régulièrement, il se languit de sa mère si douloureusement que des larmes lui montèrent aux yeux. Que penserait-elle de tout ce qui lui était arrivé? Comment jugerait-elle ses actes et ses décisions? Elle ne l'avait pas vu grandir et changer. Quelle serait son opinion sur l'homme qu'il était devenu? Au fond, on vivait toujours sous le regard des êtres aimés, même après leur disparition. Mais comment savoir si on éveillait leur fierté ou si on les décevait? Au moins, il était sûr que sa mère aurait adoré Callan, une belle fille qu'elle aurait à coup sûr estimée idéale. Pour son fils, elle avait toujours rêvé du meilleur, et vivre avec Callan était ce que Richard avait connu de mieux. Mais c'était terminé maintenant, et ça ne reviendrait peut-être jamais. Alors que lui restait-il? Eh bien, la vie, et ce n'était déjà pas si mal pour un homme dans sa situation. Au moins, il pouvait rêver au passé, si lumineux, lorsque Callan était là pour embellir le monde. Les morts, eux, ne rêvaient même pas. Allongé sur le dos, Richard attendit que l'oxygène nourrisse de nouveau ses muscles et son cerveau, lui rendant sa force et sa lucidité. Dans l'immédiat, il était trop faible pour bouger. En homme expérimenté, il n'essayait donc pas. En revanche, il profita de cette pause forcée pour se remémorer les événements qui l'avaient conduit jusque-là. Il était sur le chemin du retour avec Nietzsche et Kara lorsque la bête les avait attaqués. Une fraction de seconde avant l'assaut, il avait senti l'aura maléfique de la créature. Dans la Slife, la bête était apparue sous une forme qu'il ne lui connaissait pas, mais il était dans sa nature de changer d'apparence. En revanche, Elle ne changerait jamais d'objectif, le traquer jusqu'à ce qu'elle ait réussi à le rayer du monde des vivants. Richard se souvenait très bien du combat. À l'endroit où un tentacule s'y était enroulé, sa jambe lui faisait un mal de chien, mais la peau apparemment n'avait pas éclaté. Une chance, car une plaie ouverte était toujours dangereuse, surtout quand on n'avait aucun moyen de se soigner. Avec son couteau, Richard était parvenu à trancher plusieurs tentacules. Puis, Nietzsche avait tenté d'utiliser son pouvoir, une initiative malheureuse car c'était lui qui avait encaissé le choc de plein fouet. Sans la nature très particulière du vif argent, il n'aurait probablement pas survécu. La bête, elle, avait très bien supporté l'attaque, même pas suffisante pour la ralentir. Là encore, la Sleaf avait dû jouer un rôle protecteur inattendu. Ensuite, Richard avait été séparé de Kara, pour commencer, et de Nietzsche quelques instants plus tard. Alors que le monstre tentait de le démembrer, il avait réussi à se dégager. À ce moment-là, une chose incompréhensible était arrivée. Alors qu'il fuyait la bête, une douleur fulgurante l'avait traversé de la tête aux pieds, une sensation très différente de la souffrance provoquée par le Han de Nietzsche, ou par n'importe quelle autre magie. La magie. Oui, c'était ça. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? C'était un sortilège différent de tout ce qu'il avait jamais connu, mais ça restait de la magie. Même s'il n'était pas en contact avec la bête à ce moment-là, étant même incapable de dire où elle se trouvait par rapport à lui, tout avait changé à partir de cette étrange expérience. Quand il avait crié de douleur, sous l'assaut brutal du mystérieux pouvoir, il avait inhalé beaucoup de vif argent et, cette inspiration, contrairement aux autres, l'avait plongé dans un état proche de la panique. Jeune, il avait vécu une expérience similaire. Alors qu'il plongeait au fond d'une mare pour récupérer des galets, une compétition amicale avec d'autres enfants, il lui était arrivé une mésaventure, eh bien, comparable. À force que des gamins plongent et replongent, le fond boueux de la mare, petite mais très profonde, avait été retourné, transformant l'onde limpide en une eau glauque à souhait. Aveuglé, Richard avait perdu tout sens de l'orientation. Alors qu'il commençait à manquer d'air, sa tête avait heurté une branche. Dans son état de panique, il s'était dit qu'il avait crevé la surface et percuté une des branches basses de l'arbre qui servait de plongeoir à la joyeuse bande de petits garçons. Une erreur grossière. Il s'agissait en fait d'une racine submergée. Sans vraiment comprendre ce qu'il faisait, Richard avait inhalé de l'eau boueuse. Comme il était près de la surface et entouré de ses amis qu'il avait secourus, l'expérience n'avait pas duré longtemps. Mais elle était restée gravée dans sa mémoire. Et il en avait tiré une précieuse leçon. Toujours se méfier de l'eau qui n'était pas si inoffensive que ça. Le souvenir de cette noyade lui avait compliqué les choses lors de son premier voyage dans la Sleaf, mais il avait surmonté sa peur et appris à savourer une délicieuse expérience. Juste après l'attaque de la bête, quand il avait cru se noyer en inhalant du vif argent, Richard n'était pas du tout près de la surface et aucun ami n'avait volé à son secours. C'était la première fois qu'une telle chose lui arrivait dans la Sleaf et il s'était senti piégé comme jamais dans sa vie. Regardant autour de lui au niveau du sol, il vit que la créature de vif argent était là, le dévisageant intensément. Pour la première fois, elle n'était pas dans son puits, puisqu'elle reposait comme lui sur le sol d'une petite clairière. Ici, on entendait exclusivement les bruits de la nature, et seules les odeurs de la forêt vous montaient aux narines. Pourtant, sous les feuilles mortes, les aiguilles de pin et les brindilles, Richard sentait un sol de pierre. Les joints, entre des sortes de dalles, n'était pas du travail de grand artisan, mais il n'avait rien de naturel, ça semblait évident. La tête et le cou de la Sleaf n'émergeaient pas de son sempiternel puits, mais d'une ouverture assez petite et irrégulière ménagée dans ce sol dallé. Des éclats de pierre gisaient tout autour de ce trou, laissant penser que la Sleaf s'était frayé un chemin sous la terre, puis avait percé la pierre pour jaillir à l'air libre et déposer son voyageur dans la clairière. Richard s'assit péniblement. « Sleaf, tu vas bien ?»«
Oui, maître. »«
Sais-tu ce qui m'est arrivé ? J'ai eu l'impression de me noyer. »
« Ce n'était pas une impression, maître. »
Pourquoi cette noyade? Qu'est-ce qui a mal tourné?
Une main de vif argent jaillit de l'ouverture et vint se poser sur le front du sourcier, comme pour prendre sa température.
Tu n'as plus la magie nécessaire pour voyager.
Pardon? J'ai voyagé en toi plusieurs fois et...
À l'époque, tu possédais le pouvoir.
Et c'est terminé?
Oui, terminé.
Richard se demanda s'il faisait un cauchemar.
Slif, je contrôle, si on peut dire, les deux variantes de la magie, donc je peux voyager.
La main glissa le long d'une joue de Richard, s'attarda un moment sur son épaule, puis se plaqua contre sa poitrine. Après quelques secondes, le bras se rétracta et disparut sous terre.
« Désolé, maître, mais tu n'as pas la magie requise. »
Tu l'as déjà dit et ça n'a aucun sens. J'ai déjà voyagé.
Et c'est en voyageant que tu as perdu le pouvoir.
Tu veux dire que j'ai été privé d'une des variantes du don?
Non. J'affirme que tu n'as pas le don, un point c'est tout. Il te manque la magie, donc tu ne peux pas voyager.
Richard dut se répéter mentalement les propos de la Slif pour être sûr qu'il avait bien entendu. Hélas, c'était le cas.
De toute façon, il n'y avait aucune ambiguïté dans la déclaration de la créature.
Mais comment était-ce possible?
La corruption laissée par les carillons?
En était-il à son tour victime? Avait-elle réussi à le vider de tout son pouvoir sans qu'il s'en aperçoive?
C'était possible.
Mais ça n'expliquait pas l'étrange expérience qu'il avait vécue dans la Slif. Après avoir échappé à la bête, et juste avant de se noyer dans le vif argent, une magie l'avait frappé au moment où il était vulnérable, lui ôtant en un clin d'œil l'aptitude à respirer du vif argent.
Richard regarda autour de lui, mais les arbres étaient trop serrés les uns contre les autres pour qu'il voie ce qu'il y avait derrière. Un guide forestier comme lui détestait ne pas savoir où il était.
« Où sommes-nous, Slif? Et comment y sommes-nous arrivés ?»«
Quand tu as perdu la capacité de voyager, j'ai dû t'amener ici pour te sauver. »
« Et c'est où ton « ici »?»«
Désolé, mais je ne sais pas vraiment. »«
Comment peux-tu m'avoir conduit n'importe où? Tu sais toujours exactement à quel endroit tu te trouves. »«
Je ne suis jamais venu ici, maître. »« Et pour y arriver, j'ai dû me créer une sortie de secours. » Je connaissais l'existence de cet endroit, bien sûr, mais c'est la première fois qu'un voyageur risque de mourir en moi. La bête m'a fait souffrir tandis que je luttais pour vous garder en vie, tes deux compagnes et toi. Puis quelque chose d'autre m'a attaqué. Comme le monstre, c'était un intrus. J'ai été violé, maître.
Ce récit confirmait les souvenirs de Richard. Juste après qu'il eut échappé à la bête, un pouvoir inconnu l'avait frappé et gravement endommagé.
« Désolé que tu aies eu mal, Slif. Qu'est-il advenu de la bête ?»«
Après l'arrivée de l'autre pouvoir, le monstre n'a plus été. »«
Pardon, tu veux dire que cet autre pouvoir l'a détruit ?»«
Non, ce pouvoir n'a pas frappé la bête. » Il s'est concentré sur toi. Et après, tu n'avais plus la magie nécessaire pour voyager. Heureusement, la bête a cessé d'être au même moment. Comme je ne pouvais plus assurer ta survie, j'ai cherché la sortie de secours la plus proche.
Nietzsche et Kara, comment vont-elles? Sont-elles en sécurité?
Elles ont senti que je souffrais. Et l'une des deux a tenté d'utiliser son pouvoir, ce qu'il ne faut jamais faire en moi. Après t'avoir déposé ici, j'ai conduit tes amis à la forteresse. Bien entendu, j'ai dit à la magicienne qu'elle avait fait une erreur et qu'elle ne devrait plus jamais recommencer.
Je te comprends, admit Richard. J'ai beaucoup souffert aussi. Mes amis sont-elles grièvement blessées?
« Pas du tout. Elles doivent reprendre des forces dans la forteresse.
Donc nous sommes quelque part entre le palais du peuple et Heidendrill.
Non, maître.
Je ne comprends pas. Nous sommes partis du palais et nous nous dirigeons vers la forteresse. Ta sortie de secours doit nécessairement être située entre les deux.
Maître, si je ne connais pas cet endroit précis, la région m'est familière. Nous sommes très loin dans les contrées du milieu, au-delà de la longe d'Agaden et pas très loin du pays sauvage.
Richard eut du mal à en croire ses oreilles. Mais ce n'est pas du tout sur le chemin qui mène du palais à la forteresse. En fait, c'est beaucoup plus loin du palais que l'est Heidendrill. Dans ce cas, pourquoi ne m'as-tu pas reconduit dans le fief de Zed ?
Je ne vois pas les choses ainsi, maître. Ce qui te semble l'itinéraire le plus court entre deux endroits ne l'est pas pour moi, parce que je suis en plusieurs lieux à la fois.
Que racontes-tu là ? C'est impossible.
Tu es assis, maître, et tu as un pied sur une dalle noire et l'autre sur une dalle plus claire. Toi aussi, tu es à deux endroits à la fois.
Oui, je vois ce que tu veux dire, soupira Richard.
Je ne voyage pas comme toi, maître. Cet endroit, même s'il est au fin fond des contrées, est le plus proche pour moi. Et il fallait que je te ramène dans ton monde afin que tu respires. Tu n'avais plus la magie et j'emplissais tes poumons. Pour ceux qui n'ont pas le don, je suis du poison, maître. Heureusement, ça ne t'a pas tué sur le coup parce qu'il y a eu une sorte de transition. Tu n'aurais pas survécu longtemps, mais j'avais un court délai pour agir, un très court délai en vérité. Alors j'ai pensé à la sortie de secours la plus proche. Je suis venu ici, j'ai brisé le sol et je t'ai déposé dans ton monde. Tu étais blessé, mais ce qui restait de moi dans ton corps pouvait te maintenir en vie quelque temps.
Si je n'ai plus la magie requise pour voyager, comment est-ce possible ?
On m'a doté de capacités spéciales, afin que je puisse aider en cas d'urgence. Ces aptitudes faisant partie de moi, elles étaient donc en toi. Grâce à elles, le processus de guérison a pu s'enclencher. Ce pouvoir est uniquement destiné aux urgences, et on m'a prévenu qu'il n'est pas infaillible parce que certaines variables sont incontrôlables. Pendant que tu dérivais entre deux mondes, ma magie t'aidant à expulser ce qui était devenu un poison pour toi, j'ai conduit les deux femmes à destination. À mon retour, j'ai attendu que tu sois assez rétabli pour respirer, puis je t'ai aidé à faire ce qu'il fallait pour revenir à la vie. Au début, je me demandais si j'allais réussir. C'était la première fois que je devais sauver quelqu'un. Te regarder sans savoir si tu respirerais de nouveau était une torture. Je craignais de ne pas avoir été à la hauteur, provoquant ta mort.
Richard fixa un long moment les yeux sur le visage de Vif-Argent. Puis il sourit.
Merci, Slif, tu m'as sauvé la vie. C'est du très bon travail. Pour mon maître, je ferais n'importe quoi.
Ton maître? Un maître qui ne peut plus voyager?
J'en suis au moins autant troublé que toi.
Richard tenta de récapituler tout ce qu'il venait d'apprendre et d'y mettre un peu d'ordre. Mais respirer restait terriblement douloureux et ça l'empêchait de se concentrer. Je suppose que tu ne peux pas me conduire à la forteresse.
Maître, si tu veux voyager, je suis là pour toi.
Vraiment? Que faut-il faire?
Recouvre ton pouvoir. Et je t'accueillerai en moi. Tu seras satisfait, j'en suis sûr.
Recouvrer son pouvoir? Richard n'avait jamais vraiment su utiliser la magie dont il disposait. Alors récupérer un don perdu? Par le passé, il lui était souvent arrivé de maudire la magie et de souhaiter en être débarrassé. Et voilà qu'il piaffait d'impatience de la recouvrer. Dès qu'il avait perdu son don, la bête n'avait plus pu le localiser dans la Slif. Une petite consolation? Désormais, il aurait un souci en moins, puisque ce monstre le repérait à cause de son pouvoir. La magie était une affaire d'équilibre, selon Zed. Eh bien, cette notion existait peut-être aussi quand on la perdait. Richard se passa lentement une main dans les cheveux. « Au moins, Kara et Nietzsche s'en sont sortis. Tu es sûr qu'elles vont bien ?
Oui, maître. Je les ai déposés à la forteresse, comme c'était prévu.
Et bien entendu, tu leur as dit où j'étais.
La créature parut surprise par cette tranquille affirmation.
Non, maître. Je ne révèle jamais rien sur mes clients.
Génial.
Richard maîtrisa plus ou moins son agacement.
Mais tu viens pourtant de me dire pour Kara et Nietzsche.
Tu es mon maître. Ça m'autorise certaines licences. Slif, mes amis meurent sûrement d'inquiétude pour moi. Tu dois les rassurer et les informer. Maître, je ne peux pas te trahir. Si je te le demande, ça ne peut pas être une trahison.
La créature en resta quelques instants muette.
Maître, tu voudrais que je raconte à des étrangers ce que nous faisons ensemble?
Slif, essaie de comprendre. Tu n'es plus une catin.
Pourtant, les gens m'utilisent pour leur plaisir.
Ce n'est pas la même chose. Par le passé, des sorciers t'ont transformé, et depuis, tu es un être tout à fait à part.
Je sais, maître. Après tout, c'est à moi que tout ça est arrivé, donc je m'en souviens.
Si tu as conscience d'être différente, tu devrais saisir que trahir n'a plus le même sens.
On m'a donné pour mission d'être loyal. Ma nature n'a jamais changé.
Et je ne te demande pas de la renier, bien au contraire.
Divulguer ce que je sais serait déloyal.
Pas dans ce cas, voyons.
Richard se serait bien passé de cet absurde dialogue, car il avait plus urgent à faire, mais il n'y avait pas d'autre solution.
Slif, quand tu nous fais voyager, tu contribues souvent à sauver des vies, et lorsque tu m'as conduit au palais du peuple, tu m'as aidé à arrêter une guerre. Ce sont de bonnes actions.
Si tu le dis, maître, mais ceux qui m'ont créé ne m'ont pas totalement inventé. Ils se sont servis de la femme que j'étais, quelqu'un qui ne trahissait jamais ses clients. Je ne peux pas changer, comme tu ne peux pas voyager sans ton don.
Si tu présentes les choses comme ça,
souffla Richard. Ramassant des brindilles, il les cassa distraitement en deux en réfléchissant. Puis il parla enfin au beau visage de Vif-Argent qui attendait de boire ses paroles.
Dans la vie, on est parfois obligé de se fier aveuglément à quelqu'un. Eh bien, nous vivons un de ces moments.
Visiblement, ses propos firent mouche, car la Slif tendit le cou vers le sourcier.
« Tu es l'élu, »
souffla-t-elle.
« Quel élu ?»«
Celui dont Barakus m'a jadis annoncé la venue. »
Richard en eut la chair de poule.
« Tu as connu Barakus ?»
« Il fut un jour mon maître, comme tu l'es à présent. »
« J'aurais dû y penser. Il était le premier sorcier. »
« C'est lui qui a insisté pour que j'aie la capacité d'aider. Et cette sortie de secours est son idée. Sans lui, tu serais mort. Il était vraiment très sage. »«
Très sage, oui, »
approuva Richard.
« Et il t'a parlé d'un élu, dis-tu ?»«
Oui, il était gentil avec moi. »
Sa femme me haïssait, mais lui, je crois qu'il m'aimait bien.
Tu as connu son épouse?
Magda, oui.
Et pourquoi te détestait-elle?
Parce qu'il était gentil avec moi, et parce que je l'éloignais d'elle.
En le faisant voyager?
Bien sûr. Quand je disais qu'il serait satisfait, elle croisait les bras et me foudroyait du regard.
Richard ne put s'empêcher de sourire.
De la jalousie.
Elle l'aimait et ne voulait pas qu'il la laisse. Quand je le ramenais, elle était souvent là à l'attendre. Il souriait en la voyant et elle lui rendait son sourire.
Et qu'a-t-il dit à mon sujet, ton Barakus?
Il m'a parlé des moments où on doit se fier aveuglément à quelqu'un. Maître, il a employé exactement les mêmes mots que toi, et il m'a prévenu qu'un autre maître dans le futur me les dirait et ajouterait « Eh bien, nous vivons un de ces moments. » À ce maître-là et à celui-là seul m'a confié Barakus, je devrais révéler certaines choses.
Richard comprit immédiatement de quoi il s'agissait. Un jour, tu as conduit Magda Cyrus quelque part, n'est-ce pas?
Oui, maître. Et après, je n'ai plus jamais revu Baracus. Mais je me souviens encore du message qu'il m'a confié pour toi.
Un message pour moi? Que dit-il?
Je pleure de ne pas connaître les réponses qui pourraient te sauver. Si je les détenais, sois certain que je te les livrerais de bon cœur. Mais je sais qu'il y a du bon en toi et je te fais confiance. Tu as ce qu'il faut pour réussir. Quand viendra le moment où tu douteras de toi-même, ne renonce pas. Souviens-toi que je croyais en toi et en tes chances de succès. Tu es un être d'exception. Aie confiance en toi.
Richard se pétrifia. Ces mots lui semblaient familiers, comme s'il les avait déjà entendus.
Je crois que quelqu'un m'a déjà parlé ainsi par le passé.
La Slif tendit un peu plus le cou, la tension visible sur son magnifique visage.
Vraiment?
Richard se concentra, fouillant dans sa mémoire. Et il trouva.
C'était Shota.
Après lui avoir parlé de Baracus, et juste avant de s'en aller, elle lui avait tenu exactement le même discours, et cela avait éveillé en lui un vague souvenir, comme si...
La voyante Shota m'a tenu ses propos, murmura le sorcier.
Mot pour mot.
La Slif recula.
Désolé, maître, mais tu n'as pas réussi l'épreuve.
Quelle épreuve?
Celle que Baracus avait prévue pour toi. Navré, mais tu as échoué. Je ne peux rien te dire de plus.
Sur ces mots, la créature s'enfonça dans son trou et disparut.
Non, attends, ne t'en va pas,
cria Richard.
Se jetant en avant, il atterrit sur le ventre, non loin du trou obscur.
Sa voix se répercuta un moment dans le puits qui n'en était pas vraiment un. Mais la Slif était partie, et sans son don, il n'avait aucun moyen de la rappeler.